Je vous invite à tourner dans Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11, c'est page. Je vous indique la page. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. La puissance de sa résurrection. Qu'est-ce que Dieu a changé quand Jésus a été ressuscité? Philippiens, c'est page 896. Page 896. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Si on peut bien écouter, on va se remettre un peu dans le contexte au verset 7. Au verset 7 à 11. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, c'est la vérité. Seigneur, merci pour ce passage. On te prie que tu puisses rendre chacun attentif, bien attentif à ta parole, et aide-moi de bien communiquer droitement le sens de ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, on te prie de toucher le cœur de chacun, que ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur puissent voir l'état de leur péché, l'état de leur cœur. Seigneur Dieu, on te prie. Et on te prie que tu puisses toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir à toi et se convertir, et que ceux qui te connaissent puissent grandir en toi. On te prie au nom de Jésus. Amen. La puissance de la résurrection. Paul désirait connaître la puissance de la résurrection de Christ. Vous savez, Dieu est un Dieu de vie. Ça me fait rire dans les documentaires qu'on peut parfois regarder sur la nature. La plupart des documentaires qui sont faits dans ce monde sont d'optique évolutionniste, que tout est venu par chance, tout est venu par lui-même. Que personne n'a fait quoi que ce soit, c'est simplement le hasard. Chose impossible, nous savons, parce que c'est comme essayer de rouler un 7 avec un dé de 6 faces et il n'y aura jamais de 7. On ne peut pas créer la vie à partir de rien, on ne peut pas créer l'ordre à partir du désordre, on ne peut pas prendre toute la combinaison de ce qu'on a besoin pour la vie et penser que ça va tout venir d'un coup, tout dans la même ordre. On a vu ça il y a quelques mois. On a vu l'ADN, mais la vie, ils sont surpris dans les documentaires à quel point on la retrouve partout dans ce monde. Ils vont au plus haut, sur l'Everest, puis ils voient que la vie. Ils vont dans le plus bas des bassins, et ils trouvent dans une profondeur d'eau, avec une pression d'eau incroyable. La vie est partout. La puissance de la vie. Mais la grandeur de la puissance, c'est quand ça suit la mort. Vous savez, l'homme ne pourra jamais comprendre comment, à partir d'un corps qui vient de mourir, tout est là. Toutes les composantes sont là. Mais ils ne peuvent pas, créer la vie. Mais Dieu veut ressusciter des morts. Dans Matthieu 13, il parle de la semence. Un semeur sorti, beaucoup de semences ont été gaspillées parce que c'est tombé sur le long du chemin, puis les terres, c'était dur et les cœurs simplement se souciant d'autres choses et Satan vient pour enlever les graines. D'autres graines sont tombées sur des parties rocheuses où il y avait de la terre, mais il y avait des roches, beaucoup de roches en dessous, puis ça pousse vite, mais pas de racines en lui-même. Ça se brûle par le soleil. C'est ceux qui acceptent avec joie l'évangile superficiellement, mais ensuite, non, ils ne tiennent pas dès qu'ils sont persécutés ou moqués ou qu'il y a des choix à faire en conséquence. C'est pas. Il n'y a pas de vraie foi. D'autres, ça tombe dans la partie des ronces et ça se fait étouffer par les soucis de ce siècle, vivre pour le maintenant, ce qu'on peut voir, se sentir. Mais d'autres, ça tombe dans la bonne terre. Et dans la bonne terre, il y a des grains qui donnent 30, d'autres 60 et d'autres 100. Et c'est comme si Dieu dit, quand on accepte Jésus, il fait de nous une plante. Il y a des changements qui se font. On l'a vu il y a quelques semaines que le vrai chrétien ne pratique pas le péché, ne continue pas tout bonnement à continuer dans sa vie, sa petite vie, avec ses propres. Mais il change. Mais le degré qu'il change, c'est ouvert à chacun de vraiment vouloir vraiment grandir, vraiment servir, vraiment changer, vraiment produire. C'est Dieu qui donne l'opportunité. Et on voit ici dans le passage la grande soif de Paul. Non seulement il avait accepté Jésus-Christ en renonçant à tout ce qui lui était cher, à tout ce qui lui était important pour dire « Moi, je suis une bonne personne », on l'a vu la semaine dernière. Parce que si, parce que ça, il a renoncé à tout ça. Il a vu, non, il n'était pas une bonne personne. Il était une personne qui était condamnée à l'enfer, condamnée au lac de feu à cause de ses transgressions. Et qu'il n'avait rien que lui aurait pu faire pour enlever ça. Il a accepté de voir ça. Mais il a dit aussi, j'ai renoncé à tout. Toutes les choses qui me sont importantes à vivre pour, j'y renonce. Parce que je vais être trouvé en Jésus avec sa justice, la justice qui s'obtient par la foi. On l'a vu la semaine dernière. Mais on voit que ce même désir à accepter Jésus-Christ comme son sauveur, maintenant dans sa vie de service, il veut vraiment grandir, il veut vraiment servir et aller jusqu'au bout de la chose. Et il sait quoi? Que ça passe par la mort à soi-même. Regardez dans Jean chapitre 12, Jésus-Christ a parle de planter la semence, mais exactement, Dieu nous donne des illustrations pour comprendre spirituellement par les choses qu'on peut connaître physiquement. Et dans Jean chapitre 12, page 818, Jésus-Christ s'est servi de cela dans Jean 12. Il dit l'heure est venue, Jésus il dit l'heure est venue où le Fils de l'homme c'était lui. C'était un titre, c'était le Fils de Dieu qui est devenu homme, l'homme par excellence, le Fils de l'homme. Il dit, l'heure est venue où l'homme, le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. On parle de l'agriculture, de semer. Il n'y a que rien de semer. On sait que si on aime une graine particulière, on aime la forme, on la trouve belle, et qu'on la met sur donc une table pour l'observer, elle ne va jamais produire de plantes. Hein. Si on veut la garder comme ça, c'est tout ce qu'on aura. Et si on est prêt à perdre cette graine, on va la perdre, elle va être en terre, on ne l'aura plus. On ne la reconnaîtra plus non plus parce qu'elle se défait. Il y a des racines qui partent d'elle pour le bas, il y a une tige qui part vers le haut, on ne la reconnaît plus. Elle est morte, cette semence-là. Elle est vivante, la semence avant ça. Elle est vivante. Vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'une semence qu'on peut voir, là, on l'observe, on ne remarquera jamais la vie dedans. Mais elle a des sondes. Elle a des sondes. De voir, est-ce que l'humidité est bonne? Est-ce que le niveau de lumière est bon? Est-ce que... Il y a plein de sondes. Et il y a une énergie là-dedans qui est prête à... Ok, c'est le temps. C'est le temps qu'on s'envoie les racines, c'est le temps d'envoyer une tige, c'est le temps. Il y a de la vie dans cette semence-là. La vie qui va devenir un grand arbre, si c'est une semence d'arbre, etc. Mais justement, Jésus a dit, l'heure de sa gloire, il va donner sa vie, il va mourir. Et est-ce que Jésus-Christ est mort? Ah oui, très tangiblement, très réellement. Jésus-Christ, il avait des mains, il avait des yeux, il aurait aimé faire autre chose que d'aller à la croix, il aurait aimé aller à un pique-nique, il aurait, vous savez, ce monde est plein d'activités. Dimanche matin, il y a plein d'activités. Il y a beaucoup de matchs qui se font, ou parfois les gens ils préfèrent simplement dormir, ou ils préfèrent aller faire du bateau. Il y a beaucoup d'activités dimanche. Il y a beaucoup d'activités à travers la semaine. Beaucoup de personnes qui vont à l'école, beaucoup de personnes qui vont au travail, beaucoup de personnes qui s'occupent aux soins domestiques. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de vivre pour ce qu'on aime. Ah, j'ai hâte de faire ce que je dois faire, parce qu'enfin, en compte, après ça, je peux jouir de ce que j'ai travaillé pour. Vous ne pensez pas que Jésus-Christ aimait jouir de la vie? Mais Jésus-Christ a sacrifié cela. Parce qu'il y avait une plus grande cause. Il savait que s'il appréciait les choses de cette vie est temporaire, ça ne durerait pas longtemps. Mais lui-même, il n'avait jamais péché. Donc lui-même ne mériterait pas la mort. Et c'est pour ça qu'il dit... S'il ne meurt, le grain reste seul. Et hypothétiquement, parce que c'était sa mission de venir mourir, il ne pouvait pas ne pas la faire, être sans péché. Mais hypothétiquement, n'ayant jamais péché, il serait le seul humain au ciel. Mais il a donné sa vie. Et il ne sera pas le seul humain au ciel. Il a donné sa vie pour qu'il y ait une suite. Pour qu'il y ait des fruits. Et je suis un des fruits. D'autres ici sont un des fruits. Et Dieu veut que chacun ici soit un des fruits. Être un humain qui va durer pour l'éternité. Au ciel avec Dieu et avec Jésus. La puissance de la résurrection. Jésus-Christ savait que ça passerait par la mort. Parce que la mort avait le dernier mot, puisqu'on était tous pécheurs. La seule manière de lui enlever son dernier mot, c'est de... Jésus-Christ être la victime expiatoire. Et puisqu'il n'a jamais péché, Actes chapitre 2 dit, la mort ne peut pas le retenir. Il ne devait rien à la mort, c'est lui qui s'est donné à la mort. Il a payé une dette qu'il n'avait pas à payer. Et donc sa dette pouvait être payée pour chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il a vaincu la mort. La résurrection. L'apôtre Paul donc, continuons dans Jean 12, parce que Jésus-Christ applique fondamentalement cela à l'accepter comme sauveur. Jean 12, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Vous préférez ne pas vous convertir parce que vous voulez garder votre vie, ben vous allez la perdre tôt ou tard. Tôt, ça peut arriver. Accident, crise cardiaque, peu importe. Ou ça peut être une mort et lointaine... la vieillesse dans votre lit, tranquille, mais elle va venir quand même, la mort. Vous allez la perdre, votre vie, c'est certain, Dieu le dit. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. L'apôtre Paul a témoigné dans Philippiens chapitre 3, comme on a vu la semaine dernière, qu'il a haï sa vie dans ce monde. Il a dit, je rejette tout pour avoir Jésus-Christ et être trouvé en lui avec sa justice, celle qui s'obtient par la foi. Et non pas par sa propre justice. Il a haï sa vie. Et moi, je vous encourage, si vous n'avez pas encore haï fondamentalement votre vie pour accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, Dieu vous commande à cela, parce qu'il vous aime. Jésus, donc, il applique cette vérité-là à le salut, au salut. Fondamentalement, celui qui hait sa vie la retrouvera pour la vie éternelle. Et ensuite... Verset 25, Jean chapitre 12. Je suis retourné à Philippiens. Jean chapitre 12, il l'applique, en fin de compte, Jésus l'applique aussi au service. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Non, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jésus regardait la mort face à face, il savait que ça s'en venait. Est-ce qu'il a dit, non, je ne veux pas passer par là? Ah, dit, je souhaiterais ne pas devoir passer par là, mais je vais là, c'est pour ça que je suis venu. Il a dit, pour ceux qui l'acceptent fondamentalement, il a dit ensuite, si quelqu'un me sert. Et là aussi sera mon serviteur. Et l'apôtre Paul donc a compris ça, si on retourne en Philippiens chapitre 3, là l'apôtre Paul a parlé comme il a tout rejeté pour vraiment avoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel, puis il n'a rien qu'il allait trouver plus important que d'accepter Christ. Même si les gens lui diraient, hey, si tu acceptes Christ, je te rejette, je te fais mal, etc. Christ. Mais là ensuite, maintenant, il veut servir afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. 30, 60, 100. Le 100, il va avoir beaucoup de renoncement à soi. Plus que 30. Plus que 60. 60, c'est plus que 30. Voyez-vous, Dieu nous donne le champ, pour ceux d'entre nous qui avons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, le champ est ouvert pour vraiment le servir au degré qu'on veut. Et l'apôtre dit, moi je veux le servir au plus haut point. Et je sais que ça va passer par la communion à ses souffrances. Jésus-Christ a dû renoncer à lui-même pour aller et réellement souffrir. Eh bien, moi, dans mon service, je suis prêt à servir au point de souffrir. Que les gens mettent leur couteau à ma gorge, que les gens me traînent dehors pour me lapider, que je passe par les maladies, que je passe par des naufrages, que je passe par des tristesses de perdre un bien-aimé, etc. Je veux connaître cette communion à ses souffrances. Mais la communion à ses souffrances, ce n'était pas en soi simplement « j'aime souffrir ». Il y en a peut-être qui prennent plaisir à boire des choses qui sont dégoûtantes et qui aiment se dénigrer de toutes choses. Et Paul parle de cela dans Colossiens, qu'il y en a qui ne touchent pas, ne prennent pas, ne goûtent pas, puis il y en a qui se donnent des vies très très sévères, puis prennent gloire là-dedans, qui sont capables de vivre vraiment des vies très difficiles. C'est pas ça. Paul ne voulait pas la communion à ses souffrances simplement pour souffrir. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix simplement par plaisir parce qu'il aimait souffrir. Loin de là. Mais Paul savait que pour goûter la puissance de sa résurrection, ça passe par renoncer à soi, ça passe par être prêt à souffrir. La puissance de sa résurrection, c'est non seulement soi-même donc pouvoir avoir la vie éternelle, mais être aussi donc ce qui va encourager les autres à pouvoir se convertir et voir des réponses à la prière, puis voir des grandes choses arriver, puis voir des vies transformées. Combien de ceux qui ont dû répondre de leur vie pour leur foi, montrer la puissance de la résurrection, ceux qui ont péri dans le feu de bûcher, combien donc leurs témoignages en ont touché beaucoup de cœurs de ceux qui écoutaient, de ceux qui voyaient que les autorités cherchaient à faire taire une telle personne qui prêchait Jésus parce que ça dérangeait. Et les personnes qui regardaient ce courage de quelqu'un qui, face à cette. Il n'est pas amer, il n'est pas comme. Mais il a une douceur. Comme Étienne, quand il s'est fait martyriser, et qu'il a dit, Seigneur, ne leur invite pas ce péché. La douceur avec laquelle il pouvait mourir, n'a même pas avoir de haine envers ceux qui leur faisaient, et l'assurance qu'ils savaient où ce qu'ils s'en allaient. La paix qu'ils perdent leur vie, mais ils savent où ce qu'ils s'en vont. Cette puissance dans la mort, qui touche le cœur d'autres pécheurs qui regardent et qui disent, hey, moi, je veux ce que lui, là. Cette puissance de faire que des personnes esclaves de leur péché, esclaves de vice, ou esclaves à la drogue, à la pornographie, à n'importe quoi, d'être des vies transformées par la foi en Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de changer des vies. par le fait d'entendre le témoignage de quelqu'un qui témoigne parce qu'il a choisi de vraiment servir Christ, pas à peu près, pas beaucoup, mais autant qu'il peut. Et l'apôtre Paul, il désirait cela. Il désirait, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je pense, en lisant ce texte, entrevoir que Paul espérait avoir la joie de ne pas mourir tranquille dans son lit de vieillesse, et d'avoir la joie de pouvoir mourir pour son sauveur. Paul savait très bien, comme dit Jean, à la fin de Jean, que chacun de nos parcours, pour ceux d'entre nous qui avons accepté Jésus, Dieu connaît le parcours qu'il a choisi pour nous. Il a choisi les bonnes œuvres pour qu'on les fasse, même avant qu'on se convertisse, et il connaît le parcours qu'il nous demande personnellement. Pour certains, ça va être le martyr. Pour d'autres, ça va être une heureuse vieillesse. Mais Paul comprend cela, que lui, il ne pouvait pas penser que la seule manière de glorifier Dieu par sa mort, ça serait de mourir pour lui. Mais son choix personnel, c'est « Oh Seigneur, si tu pouvais me donner cette joie de pouvoir mourir pour toi. » Et je pense qu'on peut voir cela dans la façon qu'il écrit cette communion à ses souffrances pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Paul, comme il enseigne ailleurs par l'inspiration du Saint-Esprit, il sait que Christ pouvait revenir n'importe quand. Christ va reprendre ceux qui sont vivants lorsqu'il vient. Christ va ressusciter ceux qui sont morts en Christ quand il vient. Oh, l'apôtre Paul, il espérait pas juste être enlevé du vivant, il espérait être ressuscité. Si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc, personnellement, je pense qu'il, c'est pas dit catégoriquement qu'il espérait pouvoir donner sa vie, mais on voit un peu le contexte de cela. On sait que le minimum de ce que ça veut dire, il veut avoir part à la résurrection. Et on sait que quand on accepte Jésus-Christ, on aura part à la résurrection. Et même si on est vivant à son retour, notre corps va être glorifié. Donc on aura un corps glorifié comme si c'était ressuscité. On aura part à la résurrection dans ce sens-là. Donc l'apôtre Paul, c'est certain qu'il va avoir part à la résurrection, comme il dit. Mais quand il rajoute « si je puis », je pense qu'il rajoute un élément pour lequel tous ne passent pas nécessairement par là. Tous n'ont pas été tués pour leur foi. Je pense que c'était si je dois mourir, que ma mort compte pour Christ. Ça ne puisse pas simplement être une heureuse vieillesse et une heureuse mort, une simple mort, mais non pas que c'est mal. Et quand Dieu a donné cela, on sait que Dieu, il dit dans Psaume 116, précieux à la vue du Seigneur et la mort de ses bien-aimés. Donc, on sait que Dieu a un plan pour chacun de le glorifier par notre vie et par notre mort. Et l'apôtre Paul, je pense que dans ce passage, il nous indique là la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Quand Christ a été tué pour ce qu'il déclarait, pour qui il était, également aussi pour ma foi en Christ, ça serait une bénédiction de pouvoir être choisi pour être mis à mort pour ma foi. Pour qu'on puisse avoir cette flamme, que notre vie et notre mort comptent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne vivons pas dans un temps de persécution. En Guyane, je ne pense pas que dernièrement, il y ait des gens qui sont morts pour avoir cru en Jésus-Christ. Mais il y a des places dans ce monde qui continuent de mourir pour leur foi. Il y a des places dans ce monde de se convertir, c'est dangereux. Et plusieurs meurent pour leur foi. D'autres sont mis en prison. D'autres sont séparés de leurs bien-aimés. D'autres sont maltraités, sont battus. Et l'apôtre Paul voulait être fidèle à Christ, peu importe ce qui lui arriverait. Et aller dans une place qui serait dangereux, c'était pas. Il était prêt à le faire si Dieu l'envoyait là. Et Dieu l'a envoyé là. Dans Actes 20 et 25, c'était clair qu'il sentait que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem, même avec le fait qu'il allait être emprisonné. Et il l'a fait. La puissance de sa résurrection, donc, à travers être prêt à vivre pour Dieu, renoncer à soi-même, même dans des places qui seraient dangereuses, Et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu désire que tous entendent l'Évangile. Et il y a encore des places où c'est dangereux d'y aller pour proclamer Jésus-Christ. Il y a des tribus qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus-Christ et sont réfractaires à tout le monde qui vient les voir. Eh bien, c'est dangereux pour ceux qui veulent y aller pour proclamer l'Évangile. Dans les années 1960-70, il y en a qui sont morts à essayer de faire contact avec des tribus qui ne voulaient pas de contact avec l'extérieur. Et il y en a qui sont morts. Mais la puissance de sa résurrection est démontrée par cela, parce que ces tribus, et même plusieurs des meurtriers qui ont tué les cinq hommes en 1960-70, plusieurs des meurtriers même sont venus à connaître Jésus-Christ plus tard. Une épouse d'un de ceux qui sont morts a continué, est allée, et elle s'est fait accepter en fin de compte par cette tribu, a pu faire connaître l'Évangile. Et plusieurs des meurtriers, des cinq hommes qui sont allés là pour leur proclamer l'Évangile, ils se sont convertis. La puissance de sa résurrection. Et ça, c'était en 1960-70, mais est-ce que l'Évangile a changé? Et il y a encore des tribus qui n'ont jamais encore entendu parler de Jésus-Christ. Il y a encore des tribus que c'est dangereux d'essayer de faire contact avec eux. Mais est-ce qu'on n'a pas le même Évangile qu'en 1960-70? N'avons-nous pas la même puissance de la résurrection, que Dieu peut sauver même un meurtrier? Mais ça a passé par quoi? La communion à ses souffrances. Des personnes qui étaient prêtes à affronter le risque, renoncer à soi-même et aller dans une place dangereuse. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Je vais y aller. Et si je meurs pour ma foi, Dieu sait ce qu'il fait. Et sur justement la graine qui meurt, les fruits en sont ressortis. Si vous n'avez jamais encore lu cette histoire des cinq hommes qui sont morts, eh bien, lisez-le. Il y a des livres là-dessus. Venez me voir si vous ne savez pas à comment lire cette histoire-là. J'encourage à lire fortement. Mais justement, donc, c'est un exemple de la communion de ses souffrances et la puissance de la résurrection qui en a suivi, qui a été démontrée à travers cette communion à ses souffrances. Il y a encore des pays qui sont très ouverts à la société, mais c'est dangereux d'y aller pour en faire connaître l'Évangile. Il y a encore beaucoup de pays. Je sais qu'il y a des personnes qui y vont. Ils ne peuvent pas y aller simplement en se déclarant « je suis missionnaire ». Mais ils y vont, sachant qu'ils risquent d'y passer. Et que Dieu les bénisse et que Dieu fortifie leur œuvre, parce qu'ils sont prêts à avoir cette communion à ses souffrances, en priant que la puissance de sa résurrection puisse se manifester. Qu'en est-il de vous? Premièrement, est-ce que fondamentalement vous avez connu la mort à soi-même, puis de dire « Ok, je renonce à tout pour avoir Jésus-Christ comme mon sauveur et personnel. » Est-ce que vous avez fait ce pas-là? C'est le premier départ, de vous convertir. Deuxièmement, si vous êtes converti, est-ce que vous allez de 30, 60, 100? Oh, j'encourage, renoncez à vous-même, complètement devant Dieu, comme il dit dans Romains 12. Faites le sacrifice vivant de vous-même. Dites à Dieu, « Ok Dieu, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, c'est pas ce que, où je veux vivre, c'est pas avec qui je veux vivre, c'est ta volonté en tout point. Et si j'en souffre pour ma foi, que la puissance de la résurrection puisse donc se manifester à travers cette communion pour la souffrance. » Et on sait que ce n'est pas une décision, c'est une décision qui doit être prise fondamentalement, mais elle doit être refaite et renouvelée tous les jours. Comme Jésus-Christ a dit, ceux qui veulent me suivre, que chacun prenne à chaque jour sa croix et me suivre. On doit renouveler cela, parce qu'on peut faire ses décisions et ensuite, ça peut devenir vieux et on peut l'oublier. Oh, que vous puissiez avoir cette flamme que l'apôtre Paul dit. Et connaître, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Prions. Seigneur Dieu, touche les cœurs, on te prie, s'il y a des, pour ceux qui sont encore perdus dans leur péché, ouvre leurs yeux de comprendre la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus. Comment tu as tout accompli une fois pour toutes, parce que tu t'es sacrifié, tu as été puni pour nous, Tu as goûté à la mort à notre place. Tu as vaincu la mort et tu offres la vie à quiconque simplement se confie en toi pour leur âme et leur éternité. Ô Seigneur Dieu, pèse lourd sur le cœur de quiconque ici ne te connaît pas. Fais-leur ressentir le poids de leur péché, Seigneur Dieu, et la gravité de leur incrédulité. Seigneur Dieu, peut-être qu'ils connaissent beaucoup, peut-être qu'ils sont très religieux, mais Paul était très religieux. Mais Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses leur faire comprendre et les appeler à ce que Paul a passé à travers, cette repentance de renoncer à toutes ces choses-là qu'il pensait être des plus pour lui. Il renonce à tout ça pour vraiment se confier en Christ seul. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de ceux qui sont perdus ce matin. Et Seigneur, je te prie aussi de toucher le cœur de ceux qui te connaissent réellement. Que Seigneur Dieu, tu puisses redonner cette flamme qui était en Paul, de te servir aussi avec 30, 60, 60, non, avec vraiment le sang, avec le désir de vraiment renoncer à soi-même et de faire ta volonté, puis même de goûter à tes souffrances, de pouvoir connaître la puissance de la résurrection dans sa vie. On te prie que tu puisses nous mettre cette flamme dans le cœur, Seigneur, qu'on puisse ne pas, Seigneur Dieu, perdre les occasions de servir, qu'on ne puisse pas être distrait par les choses qui nous préoccupent personnellement, qu'on ne puisse pas être amoindri, Seigneur Dieu, dans notre service pour toi. On te prie de réveiller, Seigneur Dieu, de nous réveiller, ceux d'entre nous qui te connaissons, Seigneur, qu'on puisse connaître la puissance de ta résurrection à travers la communion de tes souffrances. On te prie donc que tu puisses toucher le cœur de chacun ici, selon le besoin de chacun. On te supplie au nom de Jésus.